Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Alors, le thème que nous allons traiter ce soir provient d'un cours du Rav Shmulevitch que je vous ai souvent, dont je vous ai souvent parlé et qui s'appelle, vous voyez le titre en gros, Bitachon. Pourquoi Bitachon ? Bitachon, ça veut dire la confiance. Parce que la paracha de cette semaine, du moment au début, Béhar, parle du din de la Shemitah. Rappelons-nous en deux mots ce que c'est la Shemitah. Qui peut me dire en deux mots ?
6 années, on travaille le sol d'Israël, et la 7e année, on...
Oui, alors 6 ans, on travaille la terre, et la 7e année... On travaille. Bon. Alors, donc, lié au problème de la Shemitah, donc de l'année sabbatique, comme on disait en français aussi, est lié le problème de la confiance. En effet, Amar Katouv, ceux qui veulent suivre dans le texte, le verset dit, le Rav, donc je vais dire moi pour qu'on aille un peu plus vite, Bashana Sheviyit, Shabbat Shabbaton, Yelaharet. Shabbat l'Hashem. Sadecha l'otizra, fecharmecha l'otizmor. Donc, au début de la paracha de Béa, qui est la paracha de cette semaine, on lit, et la 7e année sera un Shabbat, Shabbaton, un grand Shabbat littéralement, pour la thème, un Shabbat pour l'Éternel, tu ne sèmeras pas ton champ, et tu ne planteras pas ta vigne, tu n'entretiendras pas ta vigne. Puis Yalkut, donc dans le Midrash Yalkut, vous me suivez, les enfants, vous me dites si vous êtes paumés ou si vous arrivez à me suivre. On suit dans le texte, je saute pas pour l'instant, Ita. Barichu Hashem alachav, gibore koach oser devaro, shmua bekol devaro. Alors, le Midrash, si on vous rappelle les écrits des Chachamim, cite un verset des psaumes, qui est le psaume 103, dans lequel on lit « Bénissez Hachem, Malacham, vous, ses anges, Gibor et Kohar, vous, les puissants, Osé de Varo, qui accomplissent sa parole, Ishmoa Bekol de Varo, et qui écoutent sa parole. Rabbi Tzrak Nafaha, au même, de là, donc, un des maîtres dit, Rabbi Israël Nafacham, Elou Shomre Sheviyit. Ce verset-là, qui désigne donc apparemment des gens, des Gibor et Kohar, des gens puissants, sans qu'on dise qui ils sont. Le Midrash les identifie. Ce sont des gens qui écoutent littéralement la voix de Dieu, qui font ce qu'il dit, et qui écoutent ce qu'il dit. Ils font et ils écoutent. C'est Sharon ? Sharon, nous vous espérons. Si vous voulez même prendre place, on vous a réservé le fauteuil qui est là. Ah non, c'est le mien. Bon, tu as une chaise là, non ? C'est bon, il y a des chaises. Sans ça, galants comme ils sont, les garçons, ils vont sûrement aller en chercher à côté. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Bonjour. Alors, nous venons de commencer, je répète, la lecture de cette semaine comporte en fait deux parachas, Behar et Bechukotayim. Nous allons parler de la première, qui s'appelle Behar Sinai. Et là-bas, on parle de la mitzvah de la Shemitah, de l'année sabbatique, qui est présentée comment ? On n'en lit qu'un verset. La Torah dit, « On bachana Sheviyit » et la 7e année... Pardon ? Vous avez du mérite d'être venus tous. Moi aussi, d'ailleurs. T'as vu comme il est sympa? Si, si, moi à ta place, j'accepterais. Mais oui, regarde, il s'est dit caca. Ah, tu viens. Elle est folle, elle préfère un fauteuil à une chaise, franchement. Donc, je disais, le verset qui nous sert d'appui dans le Shiur est le suivant. Et la septième année, ce sera un grand Shabbat pour la terre, en l'honneur de l'Éternel. Vous ne sèmerez pas votre champ et vous n'entretiendrez pas votre vigne. Dans le Midrash Yalkut, on pose la question suivante, à partir d'un verset des psaumes, qui dit « Baruchu Hashem, Malacham, Ibo Ekoa Oser Devaro, Ishmoa Beko Devaro ». Je traduis « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous les puissants qui accomplissent sa parole et qui écoutent sa parole ». Dans ce verset-là, on ne dit pas de qui on parle. Le Midrash vient et identifie l'interlocuteur. Rabbi Yitzchak Nafara nous dit « Elou Shomrei Shevi'it ». Cela désigne ceux qui observent les règles de la Shemitah, qu'on appelle ici « Gibore Koar », les puissants. En effet, le Midrash explique pourquoi c'est tellement héroïque d'observer la Shemitah. Benoheg Shebaolam, on le lit parce que les mots sont très beaux. Dans le monde en général, Adam Ose Mitzvah Yom Echad, le Shabbat Achad, le Chodesh Echad. En général, l'homme accomplit une mitzvah pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois. Shema Lechol Yemot Hashana, mais pendant un an entier, on ne connaît pas une mitzvah à part celle-là qu'on accomplit pendant une année entière. Vedi Veden Chame Chakle Baira Karme Baira Meshatin. Voilà un homme qui va passer devant son champ, qui va voir son champ sauvage, en friche. Il va voir des ronces, des épines. Vous savez, quand on n'entretient pas la terre, ça va très vite. Il y a des mauvaises herbes qui poussent partout, il y a des ronces, il y a des épines. La terre a besoin d'un entretien considérable. Je pense que vous le savez, même si vous n'êtes pas des grandes campagnardes, mais la terre demande un énorme travail à l'homme. Les travaux les plus fatigants sont les travaux de la terre. Parce qu'en permanence, voilà derrière, entretenir son champ pour qu'il puisse un jour être labouré, semé, et produire une récolte. Et voilà donc, on dit, les hommes qui observent la Shemitah, qu'est-ce qu'ils font? Puisque pendant un an, ils n'ont pas le droit de toucher leur champ. Ils passent devant leur propriété, c'est à eux. Et ils voient le champ en friche, en désordre, et ils disent rien. C'est considérable. Moi, je vais juste vous donner une expérience personnelle pour montrer l'attachement à la terre. Il m'est arrivé, lorsque j'étais jeune, enfin je suis encore jeune, mais j'étais beaucoup plus jeune, j'habitais Nice, j'étais célibataire, et le rabbin de Nice, qui est le rabbin Henri à la Vachalom à l'époque, nous a demandé avec moi et deux copains si on était prêts à l'aider dans la surveillance du vin caché. On l'a fait, on s'est dit c'est une expérience, et pendant quelques jours, nous étions les trois cow-boys dans une exploitation viticole, c'est-à-dire un
vignoble.
Oui, enfin, on était dans un endroit où on fabriquait du vin. Alors, il y avait donc, c'était un peu à l'ancienne, c'était dans le Var, exactement au Muy. Dans le Var, il y a un village qui s'appelle le Muy. Bonsoir. Vous venez pour le cours de la Citruc? Non, because you are late. Hein? C'est ce que j'attendais. Entrez. Vous avez des chaises dehors. What?
Désolé pour
faut pas non plus trop en faire, ça. En tout cas, ça fait partie de la politesse de vous excuser. Je présume que vous avez de bonnes raisons d'être en retard. Tout le monde fait un effort pour tâcher de se libérer. Vous avez du mérite de le faire. En tout cas, moi, je l'apprécie, surtout que c'est une période d'examen et je sais que c'est pas tellement évident. Vous êtes doublement courageux d'être venu. Quoi qu'il en soit, donc, je suis en train d'expliquer que la mitzvah de la Shemitah, l'année sabbatique où on ne touche pas le champ, est présentée par le Midrash comme une très très difficile mitzvah. Pourquoi ? En effet, dit le Midrash, celui qui a un champ, il passe devant toute l'année et il le voit en friche, ça lui fait mal au cœur. Le paysan est très attaché à sa terre. Et j'étais en train de vous conter une expérience personnelle. J'en ai qu'une d'ailleurs comme ça. Lorsque j'étais jeune homme, le rabbin de ma communauté où j'habitais à Nice, nous avait demandé de l'aider pour la surveillance du vin. Alors on est allé donc à trois jeunes gens et on devait surveiller la fabrication du vin. Le vin cachère, vous savez, il n'y a rien de spécial dedans. Sauf que le goy n'a pas le droit de toucher le vin dès que le jus de raisin a commencé à être pressé. Donc que faisaient les goyim, les vendangeurs? Ils venaient dans leurs hôtes, vous savez comme font les vendangeurs, avec le raisin qu'ils avaient cueilli dans le vignoble, et ils le jetaient dans le pressoir. À partir de là, ils n'avaient plus le droit de toucher. Et nous, on devait en permanence veiller à ce qu'aucun goy ne touche le vin. Par exemple, quand on allait dormir, on fermait tout, on mettait dans les endroits où ils pouvaient toucher. Et je me rappelle, on prenait des gaz, comme les gaz pour les pansements, avec de la cire de bougie et un tampon pour s'assurer que personne n'avait touché un bouton, un robinet ou quoi que ce soit pendant la nuit. Et dès le matin, on venait en inspecter pour voir continuer. Parce que les goyes, en fait, ils respectent parce qu'ils savent que s'ils touchent une fois, toute la récolte, on ne la prend pas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils venaient, ils déposaient leur vin, leur raisin dans un pressoir. Un pressoir, c'est une grande cuve comme ça, où le raisin est malaxé pour devenir du jus. Puis après, il va dans un autre endroit, où là-bas, il est déposé. Puis après, il suit tout un processus de fabrication. Et moi, jamais j'oublierai de voir les goyim qui étaient chez eux. C'était leur raisin, leur vin. Quand on leur disait de ne pas toucher, c'est comme si on leur avait arraché leur âme. Mais c'est ma récolte. Mais c'est mon raisin. Mais c'est mon vin. Si vous voulez pas, vous faites pas de cachère. Le cachère, c'est nous qui devons tout manipuler. Mais la souffrance que c'était pour eux, ça a été pour moi un enseignement colossal. Un paysan, un agriculteur, il a un mal fou à renoncer à sa propriété d'abord, et puis au produit de sa récolte. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsque, en 1789, Rouget de Lille, qui c'est Rouget de Lille? Celui qui a composé la Marseillaise, rappelez-vous les paroles, à nos enfants de la patrie, vous vous rappelez, ils viennent, je ne sais pas, bon. Qui est-ce qui connaît les paroles de la Marseillaise? Au moins le premier paragraphe. Hein? Il n'y a personne qui peut me faire plaisir. Je sors d'ici et appelle François Hollande, moi. Il dit, il faut se jeter par la fenêtre. Hein? Voilà, silence radio. Et toi, là, et le petit juif, là.
Je connais
l'air, quoi. Ouais. Pas les paroles. Non, en un mot, on exalte le sentiment patriotique en demandant aux Français de défendre leur terre. Vous vous rendez compte, ils viennent sur notre terre. Ils veulent prendre les produits de notre récolte. Ça touche tout le monde. Et moi, vous savez, je passe, plus que nous sommes jeunes, que mes enfants ont grandi, je passe toujours nos vacances à la montagne, mais dans un endroit qui est assez bucolique, quoi. C'est pas les hautes montagnes, quoi, dans les Alpes du Sud. Et là-bas, il y a des paysans, il faut voir, leur champ, c'est Kodesh Kodashim. C'est le Saint des Saints. Si vous marchez dans le champ, si vous prenez une chose, c'est un scandale. Le paysan est comme ça, il a un attachement atavique à sa terre. Donc, c'est d'autant plus justifié ce que disent les Chachamim ici, qu'un homme à qui on demande d'observer la Shemitah, c'est quoi ? C'est un paysan qui a un champ. D'habitude, qu'est-ce qu'il fait ? Il entretient ce champ de façon méticuleuse, il arrache les mauvaises herbes, il débarrasse les broussailles, il l'entretient parfaitement pour avoir un bon produit. Et là, on lui demande pendant un an, tu ne touches pas. Puis en plus, il le voit. Il passe devant. Voilà pourquoi le Midrash dit le verset des psaumes, psaume 103, qui dit, en quelque sorte, Hachem, il interpelle des hommes, il leur dit, Baruchou, Hachem, vous les puissants. Quels puissants ? Les soldats, les héros, les guerriers, non ? Ceux qui observent la Shemitah. C'est-à-dire, c'est un tel effort de renoncer à entretenir la terre, que la Torah assimile cet héroïsme, ce geste de l'héroïsme. Parce qu'en fait, ça dure un an. Et puis, la suite, regardez le paragraphe où j'ai mis un tout petit point dans la marge, au crayon, Ose Devaro, Ishmoa Bekol Devaro. Donc, dans le verset des psaumes, il y a marqué, ceux qui font qui exécute sa parole et qui écoute sa parole. Amrou Chazal, nos maîtres ont dit dans la Gemara de Shabbat, page Pechet 88, Pesha'a, chez Idimou Israël, Naase Nishmam, Yatz'a Batkol, Ve'amra, Migila Lachem, Migila Lebanai, Razze, chez Malaché, Acharet, Mishtam Shimbo. Au moment où la Torah a été donnée aux Juifs, c'est aussi un peu en rapport avec Matan Torah, cette sikha, qu'ont répondu les Juifs, deux mots que vous devez connaître par cœur. Vous pouvez ignorer la Marseillaise, je m'en fous, mais ces deux mots, vous devez les connaître. Comment ils ont dit ? Nar, c'est Vénishma. C'est-à-dire, nous ferons et nous écouterons. Ça veut dire quoi ? Nous ferons d'abord et nous écouterons après. Écouter dans le sens de comprendre. Il faut d'abord faire, puis après comprendre. Lorsque les bénis Israël au pied du Sinaï, Hachem leur a proposé la Torah, et ils ont dit immédiatement Naase Venishma. Si bien que Hachem, dit ici la Gemara, a été un peu surpris, il leur a dit Ni Gila Lebanai Razze. Mais qui donc a révélé à mes enfants ce secret? Chez Malaché Acharet, Mishtam Shimbo, ce secret dont se servent les anges, dirent-ils, Baruch Hashem Malachav, Gibo et quoi, Ose Devaro, Ishmoa Bekol Devaro. C'est-à-dire, dans le verset des psaumes qu'on va citer, le psaume 103, il est dit, ils font sa parole, ils exécutent, puis après ils écoutent. Donc ça, qui est-ce qui tient ce discours d'après le verset ? Malachav, les anges. Mais d'où les hommes le savent ? D'où les hommes savaient qu'il faut d'abord accomplir et comprendre après. Voilà l'étonnement de la Gemara. Donc, faisons le point de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Deux idées très simples. On voit que ceux qui observent la Shemitah sont appelés Gibor et Kohar, des puissants, parce que c'est une abnégation considérable de renoncer à entretenir son champ pendant un an. C'est la seule mitzvah qui dure si longtemps. Tout le monde peut faire un Shabbat. Vous demandez, si vous avez des copains, vous leur dites, tu veux pas un peu pratiquer la Torah, vous lui dites par exemple, viens demain matin mettre les tefillines, il va venir. Vous lui dites par exemple, viens Shabbat prochain à la choule, il va venir. Tu peux lui dire, viens pendant une semaine étudier à la yeshiva, il va venir. Maintenant, demandez-lui de consacrer un an à une mitzvah, c'est trop dur. Et là, ils sont capables de ça. Voilà pourquoi la Torah les appelle ceux qui observent la Shevi'ahit, Gibor et Kohar. Deuxième idée, dans le même verset, on parle d'abord de faire et ensuite de comprendre. Le même sujet a été évoqué dans la Gemara au sujet de Matan Torah, où les Béné Israël ont d'abord dit à Hachem, nous sommes prêts à faire la Torah, et puis après à la comprendre. Faire sans comprendre. Ce qui est une démarche des anges. D'où la surprise de Akadosh Baruch Hu lui-même, au moment où il leur a donné la Torah. Et en fait, qu'exprime à votre avis, là je pose à vous la question, qu'est-ce que ça exprime l'idée que quelqu'un accepte de faire et de comprendre après? Simple, hein?
Confiance,
hein?
La soumission à Dieu.
Bravo, la soumission. Quelqu'un qui est prêt à faire, ça veut dire qu'en fait il a confiance dans celui qui parle, qu'il accepte, qu'il se soumet. Cette soumission-là, c'est la grande force du peuple d'Israël. Quelqu'un qui dit, attends, moi je veux bien manger cachère, mais qu'on m'explique d'abord pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il soumet la Torah à son intelligence. C'est genre, si je comprends, je pratique. Je comprends pas, je pratique pas. Donc qui est le plus sage, le plus intelligent? C'est Wam. D'accord? Parce que si je comprends, je fais. Si je comprends pas, je fais pas. Celui qui dit, je vais faire les mitzvot. Je vais faire la Torah. Cet homme-là, il a prouvé qu'il était soumis, qu'il avait confiance, qu'il faisait confiance à Hachem. C'est ça la caractéristique du peuple d'Israël. Et moi, je peux vous donner également mon expérience personnelle. J'ai vu que les Juifs, c'est des gens épatants. Même des fois de très grands intellectuels, j'ai eu l'occasion des fois de m'entretenir avec des grands professeurs de faculté ou des gens très cultivés, des juifs, pour leur demander de faire telle mitzvah, ils la font. Moi, j'étais même étonné des fois qu'ils ne posent pas de questions, qu'ils ne vous demandent pas, mais pourquoi on met les filines comme ça, et pourquoi dans les filines c'est comme ça, et pourquoi on les met là, et pourquoi on fait ça. Non, ils font. Ça, si vous voulez, c'est l'héritage du peuple d'Israël. Au Sinaï, on a appris à se soumettre à Dieu. On fait fi de notre capacité de réflexion, d'analyse et de compréhension pour nous soumettre à Kadosh Baruch Hu. Cette dimension-là fait que Israël sont appelés Malachim, des anges. Parce que vous savez que les anges, c'est quoi un ange? Est-ce que vous savez ce que c'est un ange? Comment vous me définiriez un ange?
Parce qu'ils font uniquement la décision d'un Kadosh Baruch
Hu. Voilà, ils n'ont pas de libre arbitre. Un ange, c'est une créature qui peut prendre différentes formes, qui peut ne pas avoir de forme d'ailleurs du tout, mais qui n'a pas de liberté. C'est quoi un ange? Hachem lui dit, fait ça, il va, il fait ça. Un malar, c'est ça. Quand vous dites à un émissaire, imaginez un robot, voilà, aujourd'hui, on parle en termes d'aujourd'hui, un robot, qu'est-ce qu'il fait? Vous dites à un robot, vous dites à une machine, vous dites à un ordinateur, vous appuyez sur un bouton, fait ça. Qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur? Il exécute. Imaginez, vous demandez à votre ordinateur, imprimante, il vous dit non. Comment non? Je vais t'escagasser. Arrête! Je ne peux pas parler avec l'ordinateur. Il n'a pas de liberté. C'est une machine. La voiture, vous rentrez dedans, vous mettez le contact, le démarreur, elle démarre. Enfin, normalement. Elle roule. Elle n'a pas de liberté. Elle ne peut pas négocier avec vous.
Les anges, ils peuvent négocier.
Poutine.
Les anges, ils peuvent négocier avec Hachem. Les anges, ils peuvent peut-être négocier avec Hachem.
Non. C'est là la définition des anges. Ah, tu penses à quelque chose de précis, toi, oui.
Par exemple, quand Moshe était monté au ciel pour récupérer les
tables de la loi,
là, hein. Bah, les anges étaient bien là pour reprocher auprès d'Hachem pourquoi est-ce que les hommes sont plus aptes que nous à recevoir la Torah, et en définitive, c'est eux qui ont fait des reproches directement à Hachem, et c'est Hachem qui a demandé après à Moshe de répondre. Donc,
oui, non, mais ça veut dire qu'à ce moment-là,
ils auraient pu
Précisément, c'est la raison pour laquelle Hachem ne les a pas écoutés. Il leur dit, vous, quel est votre problème? Vous n'avez pas dit Yetzerara. C'est quoi le Yetzerara? C'est qu'au lieu de venir au cours du Rav Citruc mercredi à 19h, je peux aller m'amuser là où j'ai envie ou sortir avec des copains. C'est parce que j'ai la faculté de faire autre chose que j'ai mérite d'être là. Tout est là. Oui. Pardon?
J'ai une question aussi, mais je ne voudrais pas trop vous éloigner de cours parce que vous dites que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais je n'ai pas compris la notion de malheur, en fait, parce que HM, c'est HM. Peut-être qu'on a besoin d'un intermédiaire
Non, évite de concevoir le malheur comme un intermédiaire. Le malheur est quelqu'un qui est chargé d'une mission. C'est un exécutant, un malheur.
Il y en a combien?
Ah non, les malachim, bon, c'est tout un monde. Mais ça veut dire, la notion de malach peut être tout aussi bien. Je vais te donner un exemple qui va te surprendre peut-être. Comment on dit pour le Shabbat qu'il ne faut pas travailler? Comment on dit à Torah? L'otasu. Voilà. Kol melacha. La Torah, à propos du Shabbat, elle emploie le mot non pas de avoda, qui veut dire un travail physique, mais melacha. Melacha. Ça veut dire donc un mot qui vient de malach. De là-bas, la Gemara déduit melechet marchevet asra Torah. La Torah a interdit un travail dans lequel la pensée de l'homme, suivez bien là parce que c'est un point extrêmement intéressant d'ailleurs, mais un peu compliqué. Elle a interdit un travail dans lequel la pensée de l'homme s'accomplit. Je m'explique. Par exemple, moi je veux arracher une fleur, ce qui est interdit Shabbat. Mais ce qui est interdit, c'est d'arracher une fleur. Bon, maintenant on est passible de sanctions, on transgresse le Shabbat, on est donc chayam si on a arraché la fleur qu'on a décidé d'arracher. Si au lieu d'arracher cette fleur, j'en arrache une autre, je ne suis pas chayam. J'ai transgressé le Shabbat, mais je ne suis pas passible de sanctions. Un homme, pour être chayam, il faut que sa pensée s'accomplisse dans l'acte. Il faut que dans l'acte, il y ait le malach, entre guillemets, c'est-à-dire l'intention. Si tu veux bien, on va traduire comme ça. Malach veut dire intention. Voilà, mon intention, c'est de faire ça. Je peux demander, Megan, tu peux me donner ce livre? Quelque part, si elle me donne le livre, elle est mon malach. C'est-à-dire, elle est mon émissaire qui va faire le geste que j'ai demandé. Comprenez, la notion de malach, c'est ça. C'est quelqu'un qui est mandaté pour une mission. Et il peut faire qu'une chose, c'est cette mission. À l'inverse de l'homme, qui peut dire non, je veux pas. Parce que bien évidemment, la Torah, c'est quoi? C'est des ordres que donne Hachem. Mais s'il est donné ces ordres à des ânes, à des robots, à des ordinateurs, il n'y aurait pas de sujet. Ils sont obligés. Si un animal, pourquoi il n'a pas d'ordre de la Torah? Parce qu'il n'a pas de liberté. Un cheval, vous lui dites, il avance. Une voiture, vous lui dites, avance, elle avance. Je ne sais pas si vous connaissez, il y avait une petite histoire que j'avais racontée un jour, très mignonne. C'est quelqu'un qui va acheter une voiture, mais il l'achète chez un garagiste très religieux, barbu et tout. Alors il demande comment ça marche, il dit, c'est très simple. Vous montez dans la voiture. Vous dites Baruch Hashem, elle avance. Alors, il croit, il dit, si. Il dit Baruch Hashem, la voiture, elle bouge. Et il dit, et pour arrêter, vous dites Amen. Il essaye, Amen, la voiture s'arrête. C'est incroyable. Il sort du garage, il va faire quelques kilomètres dans la route, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, la voiture, elle avance. Amen, Amen, la voiture, elle s'arrête. Super. Il s'enhardit un petit peu, il va dans une montagne, il monte un col, Baruch Hashem, Baruch Hashem, il arrive en haut du col, puis après, il y en a descendre. Il dit « Amen, la voiture, elle ne s'arrête pas. Amen, la voiture, elle ne s'arrête pas. La voiture, elle ne s'arrête pas, elle arrive au bord d'un précipice. Il dit « Amen, la voiture, elle ne s'arrête toujours pas. » Finalement, elle finit par s'arrêter, il dit « Baruch Hashem. » Ça veut dire en fait, la voiture, elle n'a pas de libre arbitre. Elle est là, elle obéit aux ordres, comme tout ce qui se passe dans le monde. Le seul qui peut désobéir dans ce monde, c'est l'homme. D'où le mérite qu'il a à obéir. Comprenez? Alors la Torah ici, elle nous a traité de malachim. Pourquoi ? Parce que on a réagi au Sinaï comme les malachim qui disent nous faisons d'abord. On donne un malach à Nordi, d'accord. D'accord. Maintenant, peut-être que le malach veut aussi comprendre. Il veut comprendre, on lui dit après. Mais il exécute d'abord. Et la grandeur des Béné Israël, qui sont des hommes comme les autres, c'est qu'ils acceptent de ne pas comprendre. Comprenez que si, dans notre vie de juif, nous sommes obéissants à Hachem, nous avons un immense mérite, alors que nous avons une intelligence, que nous pourrions soumettre les mitzvot à notre intelligence avant de les faire. On renonce à ça. C'est-à-dire, en fait, le mérite de l'homme, c'est de renoncer à comprendre. Pas qu'il ne peut pas comprendre, il peut comprendre. Il est même très intelligent, mais il accepte de ne pas comprendre. Vous me suivez ?
La personne qui étudie toute la journée, c'est qu'il cherche à comprendre ce qu'il en...
Exact.
Mais qui étudie vraiment la Torah, je parle.
Oui.
Et donc, c'est un peu compliqué.
Mais il continue d'étudier, même s'il n'a pas trouvé les réponses.
Ah, il continue à chercher.
Il continue à chercher. Comme ça, on raconte dans une yeshiva, il y a des jeunes gens qui discutaient de Torah, et puis il y en a un des deux qui dit, mais d'abord, est-ce que Dieu existe ? Alors, j'étais en train de discuter. Il dit, c'est une bonne question. Et puis, il reste là-dessus pendant un moment, existe-t-il, n'existe-t-il pas ? Puis, il y en a un qui a soif, il dit, je cherche un verre d'eau, il prend un verre d'eau, et il dit, Bokhat Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Sheakon Yamidvaro. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a tout créé par sa parole. Parce que la fin de la discussion entre eux, c'est que finalement, ils avaient décidé que Dieu n'existait pas. Il y avait plus de preuves contre que pour. Donc Dieu n'existait pas. Deux minutes après, il y en a un qui boit de l'eau, il fait la bracha. Or son compagnon lui dit, mais dis-moi, on vient de décider à l'instant, toi et moi, que Dieu n'existait pas. Je fais la bracha. Il dit, écoute-moi, ce qu'on a décidé, c'est une chose. Mais tu me vois boire sans faire une bracha. C'est-à-dire, en fait, la Torah, ce qu'elle demande à l'homme, mets-toi dans le trip. Moi, je vais vous dire, un jour, j'organisais pendant des années des colonies de vacances, avant que mes enfants prennent le relais. Et je me souviens, j'étais à l'époque rabbin à Strasbourg. J'avais organisé une colonie de vacances. Je reçois un téléphone d'un monsieur, une histoire authentique, hein. J'étais à l'époque à Strasbourg, il habitait Nancy. Il me dit, je suis monsieur Untel, j'habite Nancy. Voilà, je voudrais que mon fils vienne à la colonie de vacances, ils ont organisé. D'accord. Avec plaisir. Il me dit, mais le problème, c'est qu'il ne veut pas. Moi, je voulais que je fasse moi aussi, il ne veut pas. Il me dit, est-ce que vous pourriez lui parler ? Bon. Il me passe son fils. J'entends, il s'appelait Gérard. Bon, il aurait pu s'appeler Alfred. Hein, non, il s'appelait Gérard. Alors, allô, Gérard, on est ici, le rabbin Citru. Alors, paraît-il que tu veux pas venir à ma colo ? Le gars, il me dit, ben non, parce que je crois pas en Dieu. Vous avez me dit, tel que. Alors, je dis, ben, moi, ça me dérange pas que tu y crois pas. Hein. Est-ce que toi, ça te dérange que moi, j'y crois ? Là, je l'ai coincé. Puis, au bout d'un moment, il me dit... Non, ça me dérange pas. Alors voilà, je dis, voilà, on fait un deal tous les deux. Si tu veux, tu viens à ma colo, elle dure 10 jours. Pendant 10 jours, fais comme si tu croyais en Dieu. Avant, après, fais ce que tu veux. Mais nous, voilà, pendant notre séjour, on fait la prière le matin, on fait Netilat Yadayim avant de manger du pain, etc. On joue donc le jeu, tu joues le jeu avec nous, parce que moi, j'avais pas envie qu'il me casse le boulot. Il y avait d'autres jeunes, on était une cinquantaine. Finalement, il me dit d'accord. Arrive le jour de la colo, je me rappelle, c'était dans un petit coin en Suisse, Sassgrund. J'arrive là-bas, tous les jeunes débarquent, tout le monde. Et puis, on décide, c'était le premier jour, c'était des vieilles colonies, genre, il y avait une grande table en bois avec des bancs de chaque côté. Les jeunes viennent, s'installent. Puis moi, j'arrive à mon tour, je m'installe aussi, et on commence un peu à leur expliquer le programme de la colo et tout ça. Et lui, il vient, à ce moment-là, il se prend en retard, il ne s'assoit pas sur la chaise, qu'il s'assoit sur la table en position de tailleur. Bon, il n'attendait quoi que je fasse la remarque. J'ai rien dit du tout. Et il reste comme ça. Alors, après, là, il me dit, je peux te parler? Je dis, ouais, mais il y a maintenant les jeunes. Je dis, ah, ben, j'attends. Tous les jeunes s'en vont, c'était déjà 10 heures du soir. Il commence à m'attaquer. Il m'a cassé les pieds pendant 4 heures. Jamais j'oublierai. 4 heures, mais des questions de folie. Moi, j'ai eu la patience, je l'ai écouté, j'ai répondu, j'ai discuté. Bon, puis j'ai compris qu'il avait décidé de m'embêter, mais j'ai dit, ça fait rien, je tiens le coup. Il a fait le geste de venir. Moi, je dois faire le geste de l'accepter. Ce garçon, pendant une semaine, il a joué à peu près ce jeu-là. Genre la mauvaise tête. Et j'ai appris qu'il était le responsable des jeunesses trotskistes. Trotskistes, vous avez entendu parler. L'extrême gauche révolutionnaire de Nancy. Donc c'était un gauchiste à mort. Donc il voulait me casser à bloc. Il n'a pas réussi. Ce garçon, il est devenu religieux. Il est devenu rav. Il est devenu Rosh Yeshiva. Et il a ouvert une yeshiva. Et c'est un type génial. Non, non, c'est pour vous dire pourquoi. Parce que moi, j'avais compris. Ce gars-là, il était entier. Il dit oui, il dit oui. Mais pourquoi il a réussi à être ce qu'il a été? Parce qu'il a accepté de faire même sans comprendre. S'il avait commencé à me dire, alors, pourquoi on se lave les mains? Pourquoi on mange du pain? Pourquoi on mange de la viande cachée? Pourquoi et moi, on s'en serait jamais sorti. Ce qui nous a permis à nous de recevoir la Torah, c'est d'avoir accepté de faire avant de comprendre. Non, moi, comme ça passe vite. Alors, regardez bien. Maintenant, on passe à la 12e page. Il y a marqué là-bas dans la paracha, « Vechi tombrou, man ochal bashana hachevi'i. » Et si vous me demandez, dit Dieu à Israël, mais qu'est-ce que nous mangerons la 7e année? Un non isra, venons les sauver des voitées, nous. Nous n'avons pas planté, nous n'avons pas récolté notre récolte. Donc les bénis Israël disent à Hachem, et comment on va vivre? Toi, tu es bien gentil à Kadosh Baruch Hu, tu nous dis de ne pas travailler la terre. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, il n'y avait pas les transports. Chaque pays, il cultivait sa terre, le produit de son champ qu'il mangeait. Imaginez, vous demander à un pays entier, Israël, de ne pas travailler la terre. Mais on va crever de faim, ils disent. Que répond Hachem? Vetziviti et birchatim lachem. Bashana ashishit veasat et evoad leshlosh ashanim. Alors Hachem répond au béni Israël qui lui demande, mais comment nous allons manger? Il leur répond, et moi? Eh bien, je mandaterai ma bénédiction, je donnerai ma beracha à la terre, et la 6e année, elle produira pour 300. Alors, certains maîtres veulent dire que la récolte de la 6e année, l'année d'avant la Shemitah, elle était donc, elle produisait énormément. Alors, d'autres commentateurs objectent, disent, mais alors là, c'est plus un problème de Emouna, c'est un problème de comptabilité. Si j'ai un champ qui d'habitude donne 10 tonnes, et la 6e année, il donne 30 tonnes. Ben, c'est simple, il y a qu'à gérer les 30 tonnes, 10 ans, 10 ans, 10 ans, puisque finalement, je ne vais pas travailler la 7e année. Donc, on ne va pas manger la 7e année. Comme je n'ai pas travaillé la 7e année, je vais planter la 8e année. Et je vais recueillir la 8e année, le fruit de ma récolte. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais manger? La 7e, la 8e, la 9e. Et Hachem leur répond en leur disant, ben moi, je demanderai à la 6e année de faire de quoi vous nourrir pendant 3 ans. Alors, les Haramim répondent, ou bien ça veut dire que la terre produira beaucoup, ce qui n'est pas une bonne réponse, puisque ça veut dire que, en fait, on était rassénérés. Je répète, si mon champ produit d'habitude 10 tonnes, que maintenant il en produit 30, j'ai qu'à gérer le stock. C'est ça, c'est rien du tout. Voilà pourquoi les maîtres et les autres maîtres expliquent ainsi. Elle va produire comme d'habitude. Et ce qui se passera, c'est que chaque fois que vous mangerez, vous serez rassasié. vous n'aurez besoin de rien. Et ça, c'est la beracha. La beracha, c'est quoi? C'est quand on a peu, que ça nous suffit. Vous comprenez, des fois, on peut être rassasié avec un petit morceau de biscuit. Ça, c'est la beracha. Celui qui a une table bien garnie, les gens mangent et ils n'ont plus faim. C'est un phénomène purement humain. Tandis que si je vous reçois à la maison et je vous dis, voilà les enfants, je vais vous donner un petit morceau de pain. J'ai rien d'autre. Mais si en sortant vous n'avez pas faim, ça, c'est la beracha. La beracha, c'est que, comme dit la Gemara, « Amachan mitbarer bame'aim » c'est que la nourriture, elle se développe, elle se multiplie, elle se bénit dans le ventre de l'homme. Donc, vouloir la beracha de Hachem, c'est comprendre que nous ne manquerons de rien. Et ça marche comment? Le phénomène de départ, c'est la confiance. Celui qui met sa confiance en Hachem, ça marche après. Je veux dire, donner un exemple. Dans nos vies, nous, on fait des études. On peut se dire, bon, mais enfin, comment on va gagner notre vie plus tard? Alors, on étudie les marchés. On voit quels sont les métiers les plus porteurs. On fait des études, des cursus dans ce domaine-là. Puis après, on arrive sur le marché du travail. Comme on nous a dit que là-bas, il y avait des demandes d'emploi, je vais faire une demande d'emploi, je vais être embauché. Et puis, je vais gagner de l'argent, puis je vais nourrir ma famille. Bon, ça suit un cheminement. Maintenant, imaginons que quelqu'un qui a la émouna, c'est quelqu'un qui croit, qui quand il se lance dans une expérience, il n'a aucune certitude. Absolument aucune certitude. Il n'a juste confiance à Hachem. Et il est rassénéré grâce à ça. En bas de la page, je voudrais qu'on lise ensemble le Rashi qui dit ainsi, Bimi Irmiyahu, le dernier paragraphe de la page qui vient de vous être distribuée, page de droite. Bimi Irmiyahu, Keshayam Irmiyahu Mochicham, Lama Enatem Oskim Batoram, Vem Ombrim. À l'époque du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie est un prophète qui a vécu environ 3 siècles après Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il voyait que les béné Israël n'étudiaient pas la Torah, il allait leur faire des reproches en leur disant « Mais pourquoi vous n'étudiez pas la Torah ?» Et les Juifs lui répondaient « Qu'est-ce que tu nous demandes? Tu veux qu'on laisse notre travail, qu'on aille étudier ?» Comment on va vivre? Il faut bien vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait alors? Le prophète sortait de ce qu'on appelle Tzinsen et Aman. Quand les béné Israël étaient dans le désert, pendant 40 ans, ils ont été nourris comment? Par la manne. C'est quoi la manne? C'est des petits grains comme un peu... Moi, je compare ça un petit peu à du maïs éclaté. Vous voyez le pop-corn? À peu près. Vous savez, cette texture, cette apparence, ils trouvaient tous les jours, devant leur tente, des petites graines comme ça. Et Moshe Rabbeinu leur dit, vous trouverez ça tous les jours. Tant que ça tous les jours, il est bien gentil, Moshe Rabbeinu, mais on est dans le désert. Il n'y a ni supermarché, ni épicerie de quartier, il n'y a pas de champ, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Puis on n'est pas un ou deux, on était... Les béné Israël, ils étaient 600 000 hommes, plus donc l'équivalent de femmes, plus sûrement le triple d'enfants, plus sûrement le double de vieillards, de plus de 60 ans. Résultat, ils étaient au moins 5 millions de personnes. Imaginez un camp de 5 millions de personnes perdues en plein désert. Et Moshe Rabbeinu qui leur dit, ne faites pas de soucis. Faites de soucis, mais ils vont aussi, on sait du souci. Qu'est-ce qu'on va manger? Et Moshe Rabbeinu leur dit, tous les jours, vous allez trouver devant votre tente des petites graines. Baissez-vous, ramassez-les, vous mangez. Bon, déjà, ils étaient un peu sceptiques. Ils l'ont fait. Et la manne avait ceci de particulier, c'est qu'on ne pouvait pas la conserver. Il y a des gens qui ont essayé de stocker, ils ont dit, bon, peut-être que Moshe a raison. Ils ont mis dans leur poche, elle a pourri. Le lendemain, la manne était pleine de verre. Pourriture immédiate. Donc, il y en a un peu l'angoisse. Bon, aujourd'hui, dimanche, la manne est tombée. Youpi. Bon, maintenant, demain, c'est lundi. Comment on va faire? Alors, je mets un peu de manne de côté, histoire de voir. Impossible. La manne, elle pourrissait. Donc, quoi? J'étais obligé, tous les matins, de sortir de ma tente, et je vois, dans le sable du désert, le soleil qui brille, le ciel qui est bleu, et rien à manger. Sauf la manne. Et tous les jours, ça recommençait. Et ça a duré 40 ans. Mais arrive le Shabbat. Le vendredi, mon cher Rabbeinu leur dit un truc extraordinaire. Il leur dit, messieurs, dames, je vous préviens tout de suite, demain, c'est Shabbat, la main ne tombera pas. Tous les jours, je dis, non, what? La main ne tombera pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, ben, vous allez voir, ce que vous avez ramassé le vendredi, exceptionnellement, va durer 2 jours. C'est ce qu'il y a eu. Ils ont ramassé la même quantité, elle aura suffi pour le vendredi et le samedi. Donc, imaginez ce phénomène reproduit pendant 40 ans. Qu'est-ce que les bénis Israël ont perçu, compris, vécu? Que celui qui a confiance, il trouve ce qu'il lui faut. C'est ce qui est passé pendant les 40 années du désert. Les bénis Israël ne manquaient de rien. Ils ont mangé cette manne, alors en plus, la manne, elle était un peu angoissante, parce que d'abord, elle avait toujours le même aspect. Bon, quand on est comme ça pendant 40 ans, on peut avoir une fois envie d'un steak frites, une autre fois d'un couscous avec des boulettes, encore une autre fois des merguez avec des pommes de terre, rissolées. On a envie de tout ça. Walou, la manne, les petits grains blancs là. Mais le miracle de la manne, le deuxième miracle, c'est qu'elle avait tous les goûts. Si par exemple je pense à un steak frites, je vous dis, miam miam miam, elle avait le goût de du steak frit. Si je pensais à une saucisse, elle avait le goût de la saucisse, fabuleux. Puis en plus, gratos, en plus on était rassasiés. Mais les bénisraël, ils ont une autre épreuve dans la manne. C'est qu'ils mangeaient, ils étaient rassasiés, mais ils n'avaient pas envie d'aller aux toilettes. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, mais on va éclater. Quelqu'un qui est constipé, excusez-moi, un jour, 8 jours, 10 jours, ça commence à devenir inquiétant, non? J'ai l'impression qu'après ça, pas d'abou. Et en fait, ils ne sont pas allés aux toilettes pendant 40 ans. Pourquoi? C'est incroyable, ça ne fait pas l'idée.
L'eau de Myriam, hein? Et l'eau de Myriam.
Et puis il y avait un puits qui les suivait partout.
Mais ils allaient aux toilettes pour l'eau ou pas?
Oui. Mais la manne, pourquoi il n'avait pas besoin de l'éliminer? Parce qu'elle était entièrement assimilée par le corps. Comme pour un peu comprendre, comme un bébé, un nourrisson qui est nourri par sa maman, tout le lait maternel, et seulement maternel d'ailleurs, est entièrement assimilé par le bébé. Vous savez que, enfin vous n'êtes pas encore des mamans ni des papas, mais vous verrez quand vous aurez, si Dieu veut, des enfants, tant que la maman allait le bébé, il a très peu de sel et elle ne sent pas mauvais. Dès qu'il commence à prendre des biberons, chlète. Parce que justement, c'est une autre nourriture. Si on peut à peu près prendre la comparaison, la manne, ce serait comme du lait maternel, encore plus pur, entièrement assimilé par le corps et qui donnerait au corps tout. Les vitamines, les calories, tout ce qu'il lui faut. En plus, ils n'étaient jamais malades, donc pas de problème de sécurité sociale, pas de médecin, enfin bref, le top. Et il le cueillait tous les jours. Mais évidemment, ceci nécessite de la part de l'homme une adhésion à la foi exceptionnelle. Si on dit, bon, peut-être ça va s'arrêter quand même un jour. On peut être inquiet, se poser des questions. Celui qui ne s'est pas posé de questions n'a jamais manqué de rien. Celui qui a commencé à vous péter, tac, il a été immédiatement... moi, il est déjà 8h, presque 10. Je vous prie de m'excuser d'avoir débordé un peu. En tout cas, je n'ai pas fini malheureusement, mais je voulais vous redemander ne soyez pas gênés si vous avez des examens ou autre. Est-ce que moi j'ai prévu de vous donner cours mercredi prochain? Est-ce que vous serez là? Yes, yes? Or not, not. Oui? C'est bon? Et le bac?
Il y a une phrase en bas de la feuille.
Quelle classe. Il est plein de classes, ce jeune homme. Hein. La page 2.
C'est une écrite au crayon. C'est une écrite au crayon.
C'est ça dont tu parles ?
La bénédiction de ma vie, c'est de ne jamais avoir eu besoin de quelque chose avant de le posséder.
Ouais, cette phrase est de moi. C'est vrai en plus. Comme je suis un peu modeste, je n'ai pas signé après. C'est vrai, c'est une vraie bracha.
Moi, je n'ai pas compris vraiment cette phrase.
Qu'est-ce que tu n'as pas compris, ce qu'il vient de dire, là ?
Oui, parce qu'au final, enfin, y a des choses quand même indispensables qu'on est obligé d'avoir, d'acheter, parce qu'on en a besoin.
Je peux comprendre.
C'est vrai qu'on peut avoir la sagesse de se dire qu'on n'a pas besoin, mais...
Non, ce que j'ai voulu dire par cette phrase, c'est que la beracha, c'est, je sais pas, par exemple, je vais vous donner, excusez-moi, il m'arrive parfois de parler ma vie, c'est pas pour raconter ma vie à moi, c'est pour simplement vous dire que ce sont des choses que j'ai vécues. Moi, je me suis lancé dans mes études de rabbinique, alors que je m'étais au départ, vous le savez, destiné à une autre carrière scientifique. J'ai décidé de me lancer là-dedans. En commençant mes études rabbiniques, je ne savais pas du tout ce que ça signifiait, ni dans le contenu des choses, ni dans les perspectives de carrière. Je me suis jamais demandé qu'est-ce que gagne un rabbin, qu'est-ce que je vais pouvoir avec ça nourrir une famille, ou avoir des enfants, ni aller à tel et tel autre endroit, jamais. Et je peux vous dire une chose, sans flagronnerie, je n'ai jamais été candidat pour un poste. Tout s'est toujours déroulé devant moi comme un tapis. C'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai pas eu besoin de voiture avant d'en posséder une. Dès que j'ai besoin d'une voiture, j'en ai eu une. Comment ça s'est passé ? Circonstances incroyables.
Il y a besoin avant quand même. Il y a l'instant d'avant. Avant d'aller acheter quelque chose, la voiture, vous l'avez fait reçu en cadeau, par exemple.
Non, mais tu as raison. Mais je veux dire simplement, c'est ça que j'appelle moi la bracha. C'est qu'en fait, bien évidemment, je voyais bien des voitures dans la rue, j'avais des copains qui en avaient. Moi, je ne voyais pas vraiment le besoin d'en avoir. Moi, je me rappelle que j'avais un copain de classe, qui était un goy, parce que moi, j'étais dans un lycée public. Il était corse. Il s'appelait Christian Lucchini. Et il avait une Mercedes. Son père devait être riche. Alors qu'il avait, quoi, 18 ans, 19 ans. Et moi, je marchais à pied. J'ai jamais eu envie de sa Mercedes, c'est ça que je veux dire.
C'est envie de ne pas pouvoir l'avoir.
Voilà. Et puis un jour, le besoin s'est posé, parce que, bref, donc j'ai besoin de voiture, et j'ai un copain qui m'a dit, je connais une voiture d'occasion, combien elle vaut ? 500 francs, à l'époque, 500 francs. C'était une 2 chevaux d'occasion. 2 chevaux Citroën, elle avait presque le même âge que moi. Je crois qu'elle était juste un peu plus jeune que moi. Avec cette 2 chevaux, je vous assure, j'ai gardé je sais pas combien d'années, j'ai roulé, j'ai fait des voyages invraisemblables, sans jamais avoir de pépins. Mais évidemment, 2 chevaux vieillissaient. Par exemple, après je suis monté à Paris quand je me suis marié, je fais mes études rabbiniques à Paris. Je suis arrivé à Paris, il faisait très froid, la voiture ne démarrait pas. Tous les matins, ma femme, elle m'entendait, il y avait à l'époque dans les 2 chevaux une manivelle, vous savez, devant. Je démarrais la voiture à la manivelle. C'était un enfer tous les matins. Hein ? Et elle démarrait, mais la 2 chevaux, quand elle démarre, elle ne s'arrête plus. Un jour, je me trouvais là où je suivais mes études à l'école rabbinique dans le quartier latin, boulevard des Gobelins par là-bas. Et je sors de l'école pour rentrer chez moi. La voiture ne démarre pas. J'en avais marre. Et dans les deux chevaux de l'époque, on ne pouvait pas les pousser pour qu'elles démarrent. Il y avait une boîte semi-automatique qui empêchait le démarrage. Bref, la vraie galère. Et j'avais fait des frais. La voiture ne démarrait pas, j'ai changé le démarreur, changé ce qu'on appelait à l'époque la dynamo, changé la batterie. Et ça m'a coûté une fortune de réparation. Et puis un jour, donc, je sors, la voiture ne démarre pas, j'enlève le frein à main, et la voiture elle roule en bas de la pente, je vois un garagiste, je m'arrête. Je lui dis, oh, un garagiste, un vieux monsieur, je me rappelle, il avait son tournevis ici, sur l'oreille. Je lui dis, voilà, je raconte mon problème, voiture d'occasion, elle ne démarre pas, elle n'a jamais bien démarré, et j'ai changé ça et ça. Le bonhomme, il fait comme ça, il s'assoit dans la voiture. Il tourne à l'époque, c'était des voitures où il y avait on tournait la clé pour avoir le contact. Et dans la deux chevaux Citroën, il n'y avait pas de tableau de bord, il y avait juste un ampéremètre, un seul cadran. Il regarde le cadran, il remarque que l'aiguille ne bouge pas. Il ne me dit rien, il sort son tournevis, il démonte deux vis et il s'aperçoit qu'il y avait un faux contact au niveau de la clé. C'est de là que venaient tous mes pépins. En peut-être, on va dire, 2 minutes à la montre, il répare le faux contact, je tourne, ça démarre. Parce que je vous dois rien du tout. Alors que j'avais dépensé des sommes de folie pour la réparer. Incroyable. Et ça a marché comme ça dans ma vie tout le temps. Bref, je voyais que la voiture est vieillissait et le moteur, il donnait quelques finis de fatigue. Je vais chez un garagiste, il me montre le moteur, il était coupé en deux. Autant il dit, mais vous roulez avec cette voiture? Je dis oui. Il me dit, vous savez, elle peut vous plaquer d'un moment à l'autre. Je n'avais pas le choix, je n'avais pas les moyens de changer de façon. Je descends avec ma femme à Nice, là où habitaient mes parents. Paris, Nice à l'époque, et pas d'ailleurs d'autoroute. C'était une épopée, 18 heures de route. Il n'y avait pas les autoroutes. Je dis 18 heures, je vous n'exagère pas. On roulait à 60 à l'heure dans les descentes. Dans les montées, je ne sais même pas si on roulait d'air. On est arrivé à Nice. Miracle. J'apprends malheureusement que ma mère est très malade et qu'il avait fallu l'opérer d'urgence à Marseille. Bon, il faut aller à Marseille voir ma maman. J'avais un copain très sympa. Il me dit, écoute, tu ne vas pas aller avec ta carriole. Là. Je t'ai prêté ma voiture. Il avait une voiture, bon état, flambant neuve. Il me prête sa voiture. Je n'ai pas fait 20 km panne sur l'autoroute. Repanne un peu plus loin. 3 pannes. Alors j'ai dit au dépanneur, j'ai dit, écoutez, j'avais une deux chevaux, je l'ai laissé à Nice, et elle me dit, écoutez, monsieur, moi, depuis que je suis sur l'autoroute dépanneur, je n'ai jamais dépanné une deux chevaux. C'est des voitures increvables. Finalement, je suis arrivé. Et ça rôde de folie, mais chaque fois, toujours des solutions. C'est ça que je vais vous expliquer, mon Aïmouna, c'est que fallait que j'aille à Nice voir mes parents. Il n'y avait pas à discuter, j'avais pas les moyens, j'avais pas. Je suis arrivé. Ma mère étant fait opérer à Marseille en urgence, fallait que j'y arrive, je suis arrivé. Et ainsi de suite, tous les événements de la vie. Et puis après, bon, avec ma fiancée, on voulait se marier. Donc je vais voir son père pour demander sa main. Il me dit, comment vous allez vivre? Alors bon, on avait connu tous les deux que j'allais lui raconter des salades avec ma fiancée. Je lui dis, j'ai une bourse de temps, je crois une bourse de 400 francs. Et je vais donner des comptes à mon Torah. Ça va faire combien tout ça? Bref, je lui invente un chiffre. Mon beau-père n'était pas très convaincu, il me dit, bon, allez, bon. Prends la marchandise. Et on s'est mariés, alors qu'on n'avait rien. Dommage. Pour vous raconter, ma femme, elle est là. En semaine, on ne mangeait que des pâtes. Et en plus, on invitait des copains. Non, tu ne voudrais pas, elle n'est pas là, elle est à la maison. On invitait des copains, quand on avait un tout petit appartement, minuscule. Les copains, ils venaient passer le Shabbat chez nous, ils dormaient tous par terre. On avait deux chambres, une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons, et on a passé comme ça des... J'étais étudiant pendant 5 ans. J'ai jamais eu besoin de rien. Puis après, bon, la vie est donc on a démarré un jour. Je sors diplômé du séminaire rabbinique. Quelle carrière? Le directeur nous convoque, il dit, voilà, il y a un poste là. Si ça vous intéresse, moi j'ai choisi au pif tel poste. Et puis ce poste-là, finalement, il m'a amené d'un autre à un autre à un autre. Et finalement, bon, j'aime tout s'est enchaîné dans ma vie. Je vais vous montrer quoi. Je fais pas seulement des cours théoriques sur un livre, très intéressant. J'essaie de mettre en pratique ce que je vis, ce que je pense. Et en fait, quand on a confiance, on n'a pas de pépins.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.